Bonjour et soyez les bienvenus à l'émission Le quotidien des quotidiens. C'est l'édition du 12 septembre 2018. Hélène Denis avec vous, avec plaisir. Et aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'avoir deux invités. Je reçois Isabelle Federici, vice-présidente de programmation et production à Mi-Télé chez Accessible Média, qui nous parle du débat des chefs en vidéodescription de demain soir. Et aussi l'auteur David Goudreau, qui lui nous parlera d'une nouvelle fondation intitulée « Lire pour réussir ». Bonjour Maurice.
Oui, bonjour.
Vous m'apprenez une nouvelle que je n'avais pas entendue part. Je suis sous le choc, la mort
de Rachid Tahar.
À 59 ans seulement.
Oui, crise de cœur.
C'est épouvantable.
C'est triste, oui.
Oui, alors il est mort ce matin ou hier?
Dans la nuit de... On est le 12, dans la nuit passée. Là.
Ouais.
C'est sorti ce matin aux petites heures, là, à 6h30, bon. 7h ce matin, c'est sorti.
Oui, la semaine passée, on apprenait le décès de Lise Payette, ensuite celui de Gilles Pelletier, ensuite celui de Burt Reynolds. J'espère que ce ne sera pas une escalade comme ça. Mais
Non, mais là, celui, c'est plus subi. Là,
Madame
Payette, elle avait c'est quand même un certain âge, M. Pelletier, un certain âge
aussi. Oui, c'était tous des octogénaires. Là, c'est un quinquagénaire, ben 59 ans, là, c'est jeune pour mourir. Mm-hmm. Et surtout, il est mort subitement. Ça nous laisse sans voix. Mm-hmm. On pourra peut-être entendre ses chansons.
Oui, j'ai préparé une pièce pour plus tard.
OK. Avez-vous préparé les éphémérides aussi? On vous écoute.
J'ai le papier dans les mains. En ce 12 septembre, je vais essayer d'expliquer ce qui s'est même à l'écrit. C'est la Journée internationale des Nations unies pour la coopération Sud-Sud. Là, c'est écrit, c'est-à-dire les pays de l'hémisphère sud, notamment avec les pays en voie de développement. Donc, on peut comprendre le Brésil, les pays plus développés, comme le Brésil, peuvent aider certains pays.
Plus pauvres encore.
Oui, oui. Mm-hmm. Et même chose en Asie aussi. Quelques pays, le Vietnam roule assez bien, je crois, et quelques autres. Pour les journées internationales, les événements. On commence en 1928 à la Malbaie, le manoir Richelieu est rasé par le feu. 1940, à Montignac, en Dordogne, c'est en France, quatre adolescents découvrent dans la grotte de Lascaux, les célèbres grottes de Lascaux, des gravures et des peintures datant de vieilles de 17 000 ans. La trouvaille sera gardée secrète jusqu'à la fin de l'occupation allemande, à la fin donc de l'été 1944. En 1970, en Jordanie, après avoir libéré les passagers des pirates palestiniens, font sauter les trois avions qui ont été détournés. En 1974, l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié, qui régnait depuis 1930, est détrôné par des militaires. En 1977, Charles Dutoit devenait le chef d'orchestre et directeur artistique de l'Orchestre Symphonique de Montréal. Il a été là proche d'une vingtaine d'années minimum. En 1989, à Varsovie, l'événement du gouvernement de Tadeusz Mazowiecki marque la fin du régime communiste. En 1974, c'était l'élection du gouvernement du Parti québécois de Jacques Parizeau. En 1997, l'engin Mars Global Surveyor s'insère en orbite autour de la planète rouge pour la cartographier. En 2001, un adolescent de l'île Bizarre, alias Mafia Boy, écope de 8 mois de garde ouverte et un an de probation pour piratage informatique. On se souvient où il avait fait créer un gros bug. Les grosses compagnies avaient été momentanément gelées. Ensuite, en 2005, Israël met fin à 38 ans d'occupation de la bande de Gaza. En 2009, plusieurs artistes et politiciens se relaient pour lire des textes pendant 24 heures à l'occasion du Moulin à parole à Québec. En 2013, Maria Mourani, expulsée du Bloc québécois pour avoir exprimé sa dissidence face à la Charte des valeurs québécoises. 2015, inauguration du nouvel amphithéâtre de Québec, le Centre Vidéotron. Quelques naissances. Barry White, chanteur américain, naissait en 1944. Il nous quittait en 2003. Hans Zimmer, compositeur allemand, naît en 1957. Et plus proche de nous, on dit la chanteuse française, Mylène Farmer, 1961. Mais elle est née ici au Québec. Elle a quitté très, 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 très tôt. Jeune bébé. Décès, l'homme en noir, Men in Black, le chanteur Johnny Cash, nous quittait en 2003. Il était né en 1932. et l'acteur britannique Jeremy Brett, l'interprète de Sherlock Holmes dans 41 épisodes d'une série télévisée, lui nous quitte en 1997. Donc, ça fait le tour de ce 12 septembre 2018.
Merci, mon cher Maurice. À la une de la presse, actualité dossier, je ne sais pas si vous avez suivi ce dossier, c'était à Radio-Canada, et puis il y aura l'émission complète à Découverte dimanche, l'homme aux deux visages défiguré depuis 7 ans. Un Québécois a reçu en mai un nouveau visage à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Histoire de la première transplantation faciale au pays. Alors une bonne nouvelle, ça change le mal de place, comme dirait l'autre, c'est tellement rare, alors je vais vous en parler. Je vais lire une partie de ce dossier qui est très étoffé. Aussi, art, gala des prix Gémeaux, 4 scènes marquantes. Patrick Lagacé, sa chronique, il revient finalement sur une chronique qui a vraiment fait parler les gens qui ont même... il y a certaines personnes qui ont envoyé des courriels disant à Patrick Lagacé qu'ils étaient déçus de cette chronique, ils étaient déçus de lui. Alors, il écrit à propos du réchauffement climatique « Désolé d'être défaitiste ». Et la chronique de Stéphanie Grandmont, « Lola et la patate chaude électorale ». L'homme aux deux visages. Alors, je vous lis quelques extraits de ce grand article. Le silence est tombé sur la salle d'opération, jusque-là bruyante et affairée. Un silence révérencieux, entrecoupé par le bip régulier de l'électrocardiographe mesurant le pouls du donneur en état de mort cérébrale. Après 2 heures d'intervention, après des années de préparation, le moment était venu. Lentement, minutieusement, le docteur Daniel Boursuc et son équipe ont retiré le visage du donneur. Tous ont retenu leur souffle comme s'ils réalisaient soudain ce qui était en train de se produire sous leurs yeux. La nuit était tombée, les chirurgiens se sont dirigés dans la salle d'opération voisine, en emportant avec eux le visage posé comme un masque sur un plateau stérile. Et dans la salle du receveur, ils ont opéré, ils ont vissé les mâchoires, suturé les veines et les nerfs. Quand ils ont desserré les artères, le sang a recommencé à circuler et le visage irrigué a repris ses couleurs greffées à une nouvelle tête. L'opération réalisée en mai à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal a duré 30 heures. Ce jour-là, l'équipe du docteur Boursuc a réalisé un exploit, la toute première transplantation faciale au Canada. Surtout, elle a redonné un visage à un homme qui n'en avait plus, ou si peu, depuis 7 longues années. Chaque fois qu'il rencontre un nouveau patient, le docteur Daniel Boursuc lui demande « Dans un monde idéal, que voudriez-vous? » Quand Maurice Desjardins est entré pour la première fois dans son bureau en 2015, le docteur Boursuc lui a posé la question rituelle. « Je veux être capable de boire et de manger, » lui a-t-il répondu. « Je veux des dents. Je veux sortir avec ma petite fille sans avoir à supporter le regard des autres. » L'homme qui lui faisait face était défiguré depuis 4 ans. Son cou était percé d'une trachéotomie permanente. Il n'avait ni dents, ni mâchoires, 2 trous béants à la place du nez, une bouche difforme triangulaire qui lui donnait vaguement l'air d'un chat. Maurice Desjardins était une gueule cassée qui attirait autant de regards appuyés qu'il en détournait d'autres révulsés. C'est une balle qu'il a estropiée en janvier 2011. Le docteur Boursuc lui a répondu « Oui, il y a quelque chose. Je peux te redonner un nez, des mâchoires, des lèvres. Ça s'appelle une greffe faciale. » Maurice Desjardins s'est mis à pleurer. Pour la première fois, il voyait le bout du tunnel sombre et terrifiant dans lequel une balle perdue l'avait plongé. Alors, ça prend une famille extrêmement généreuse, dit le docteur Daniel Boursuc. Pour donner la face de votre amour, de votre fils, de votre père, ça prend une générosité presque surhumaine. C'est que le visage n'a rien d'un foie ou d'un pancréas. Il est unique. Il définit un homme par rapport aux autres. Il exprime ses joies et ses peines, ses peurs et ses colères. Il confirme son humanité. Alors, que transplantons-nous? Une âme? Se demande Daniel Boursuc. Le célèbre éthicien médical américain Arthur Kaplan aime dire qu'on n'a jamais écrit de poème à propos d'un rein, mais on a écrit bien des poèmes à propos d'un visage. et La Métamorphose. Maurice Desjardins n'a pas découvert son nouveau visage tout de suite après l'opération. La longue anesthésie, la douleur et les médicaments l'avaient plongé dans un délirium sévère. À 64 ans, le greffé du visage le plus âgé du monde s'est retrouvé totalement confus à l'unité des soins intensifs. Il a repris ses esprits au bout de 2 semaines. Les points de suture avaient été retirés. Les cicatrices s'estompaient déjà. Pour la première fois, le docteur Boursuc a tendu un miroir à son patient. « J'ai dit, « OK, Maurice, tu peux regarder. » Il a regardé son reflet, m'a regardé, puis a regardé son reflet à nouveau. Il a touché sa peau, il a touché ses lèvres, il a regardé ses dents. Il explorait son visage pour la première fois. Ému, Maurice Desjardins a longuement étreint son chirurgien. Cet improbable magicien qui venait de lui accorder une nouvelle chance, une nouvelle vie. C'était un moment. Il n'y a pas de mots. Laisse tomber le docteur Boursuc. Élection PLQ dans un autre engagement qui s'inspire de Québec solidaire, Philippe Couillard promet la gratuité des transports en commun pour les étudiants à temps plein et les personnes âgées, une promesse évaluée à 200 millions par année. Il veut également interpeller la Caisse de dépôt et placement pour étudier un prolongement du réseau express métropolitain vers Mirabel. PQ après François Legault, c'est au tour de Jean-François Lisée de faire un appel au vote stratégique lors d'un débat local dans la circonscription de Rosemont hier. Il a prié ses électeurs de ne pas diviser le vote en optant pour Québec solidaire, un parti qui, on le sait, ne sera pas élu. CAQ, François Legault a laissé entrevoir une collision frontale avec Philippe Couillard sur l'immigration au premier débat des chefs demain. Il a sommé le chef libéral de révéler combien d'immigrants il admettra s'il est réélu. Et QS, pour Québec solidaire, la seule véritable question de l'urne pour les élections générales du 1er octobre, et la lutte contre les changements climatiques. Gilbert Rozon, accusé d'agression sexuelle par sa belle-sœur. Martine Roy, belle-sœur de Rozon, a affirmé hier matin sur les ondes du 98.5 avoir été agressée sexuellement sur son lieu de travail par l'ex-patron de Juste pour rire au milieu des années 90. 10 mois après avoir porté plainte au criminel, elle prend la parole en espérant que les procédures en cours s'accélèrent puisqu'aucune accusation n'a été déposée contre celui qu'elle désigne comme son agresseur. Gilbert Rozon a réagi à ces nouvelles révélations sur son compte Twitter. « Je nie catégoriquement ces nouvelles allégations, tout comme les autres qui ont été faites à mon sujet durant les derniers mois. J'ai l'intention de me défendre et espère que le système de justice auquel je crois et avec lequel je suis prêt à collaborer, fera la lumière sur ces accusations sans aucun fondement. » millions. C'est le nombre de personnes souffrant de la faim en 2017 contre 804 millions en 2016, selon le rapport dévoilé hier par 5 agences de l'ONU, qui présente un inversement des tendances à la baisse. Les changements climatiques sont en grande partie responsables de cette hausse, préviennent les Nations unies, car ils dévastent la production agricole dans la plupart des pays en développement. Le chef du Programme alimentaire mondial, David Beasley, a dit que ce message devrait effrayer le monde. In a magic world, Sarah, been thinking about you.
In the static's world, Sarah, time is a ruin, and I love a woman with the heart of a boy still. All right. Come through when you're tired of the same folks, when you're tired of the same jokes.
On vient d'entendre Alyosha qui nous chantait Sarah.
Et à la une du Devoir de ce 12 septembre, les coupes en éducation viennent hanter les libéraux. Les porte-parole en matière d'éducation des quatre principaux partis, Hélène David, PLQ, Carole Poirier, PQ, Jean-François Roberge, CAQ et Christine Labrie, QS, ont participé mardi soir à un débat organisé par Le Devoir et l'UQAM. Un mauvais voyage, ça aurait pu s'intituler un bad trip, mais on a décidé de titrer en français et c'est bien comme ça. Ceux qui œuvrent dans l'industrie du cannabis risquent d'être refoulés à la frontière américaine et même d'être bannis à vie des États-Unis. Aussi, les années Charest, Pierre Godin signe corruption, collusion, absolution. Que retenir des années Jean Charest, biographe de René Lévesque, de Daniel Johnson père, connu aussi comme critique des médias. Le journaliste et historien Pierre Godin lance ce livre « Corruption, collusion, absolution », une longue chronique des années Jean Charest, dont le règne, laisse-t-il entendre, s'étire effrontément en toute impunité, jusque dans notre présent, si malmené. Aussi culture, Roma, du réalisateur Alfonso Cuarón, est un chef-d'œuvre d'humanité et de finesse. Économie, la crise, 10 ans après, le mal-être américain. La ministre Hélène David a dû défendre le bilan des 4 années de gouvernement libéral en éducation mardi soir lors du débat organisé par Le Devoir et l'UQAM. Les représentants de Québec solidaire, du Parti québécois, de la Coalition Avenir Québec ont critiqué la ministre de l'Enseignement supérieur pour les compressions budgétaires des deux premières années du mandat libéral qui ont fait mal dans les salles de classe. Ce grand débat en éducation animé par Brian Mice, directeur du Devoir, a donné lieu à des échanges musclés sur le rôle des commissions scolaires, sur la pénurie d'enseignants et de professionnels comme d'orthopédagogues sur les services aux élèves en difficulté et sur la place de l'école privée notamment. La ministre Hélène David a fait valoir que le gouvernement a recommencé à investir après avoir fait le ménage dans les finances publiques, ce qu'elle a appelé la réingénierie de l'État. Le débat a ainsi donné lieu à des consensus. Par exemple, les quatre candidats sont contre la création d'un ordre professionnel des enseignants. Ils appuient l'idée de mieux payer les jeunes enseignants pour les retenir dans la profession. La ministre David a rappelé que les jeunes enseignants héritent des classes les plus difficiles parce que les classes sont attribuées en fonction de l'ancienneté. Les quatre parties sont aussi d'accord pour tenir le plus rapidement possible des états généraux sur l'éducation. Ils appuient aussi l'hypothèse de remanier le cours d'éthique et culture religieuse pour ajouter un volet éducation à la citoyenneté ou encore retirer le volet éducation religieuse. C'est Fabien Deglise qui signe l'article. La Société québécoise du cannabis, SQDC, l'entité gouvernementale qui, à partir du 17 octobre, va assurer la vente de la marijuana récréative au Québec, ne compte pas offrir un soutien juridique particulier à ses employés, même si ces derniers se trouvent dès à présent et dans les prochaines années à risque lors de leur passage à la frontière américaine. Bien que quelques États l'aient légalisé, les États-Unis considèrent encore et toujours, à l'échelle fédérale, le cannabis et son industrie sous toutes ses formes comme une activité illégale qui peut entraîner le refoulement aux postes frontaliers de citoyens étrangers prenant part à cette activité, y compris de manière légale dans leur pays. Le sujet fait partie de nos discussions avec nos employés, indiqués au Devoir Mathieu Gaudreau, porte-parole de la SQDC, mais pour le moment, nous leur avons dit de ne pas s'inquiéter avec ça, a-t-il ajouté. L'enjeu est pourtant pris très au sérieux ailleurs au pays, alors qu'en avril dernier, le président d'une entreprise spécialisée dans les équipements agricoles, entrant dans la production de plants de cannabis, Jay Evans, de la région de Vancouver, et deux de ses employés, ont été refoulés à la frontière américaine après avoir indiqué aux douaniers la nature exacte de leur activité commerciale. Montréal et l'Autorité régionale de transport métropolitain, ARTM, confieront les travaux de construction du projet de service rapide par bus du boulevard Pie-Neuf à la firme EBC. L'entreprise de la région de Québec a décroché trois contrats totalisant près de 200 millions de dollars pour réaliser les travaux, qui s'échelonneront sur 4 ans. Fuir devant Florence à bord de leur véhicule. Il y a beaucoup d'autos sur l'autoroute. Des milliers d'Américains ont envahi mardi les routes du littoral de la Caroline du Nord dans l'est des États-Unis, fuyant vers les terres pour échapper à Florence. L'ouragan, décrit par les météorologues comme potentiellement dévastateur, devrait frapper la région jeudi à coups de vent extrêmement violents, pouvant atteindre jusqu'à 220 km/h et de pluies diluviennes. Après la Caroline du Sud, la Caroline du Nord, la Virginie et le Maryland, la capitale fédérale de Washington a aussi déclaré l'état d'urgence ce mardi, redoutant les précipitations engendrées par l'ouragan. Le Parti québécois veut limiter la rémunération des patrons de sociétés d'État à 250 000 $ et taxer les salaires des hauts dirigeants des compagnies publiques. Personne dans l'administration publique désormais ne gagnera plus que le premier ministre, a statué Jean-François Lisée mardi. Sous sa gouverne, la rémunération des successeurs des recteurs ou du dirigeant d'Hydro-Québec serait ramenée à 1,5 million. Les salaires de hauts dirigeants de compagnies publiques seraient aussi taxés s'ils dépassent de 30 fois la rémunération moyenne des employés. Le PQ souhaite aussi utiliser les montants récupérés par la taxation des géants du numérique situés hors Québec pour financer des mesures sociales. Il voulait auparavant utiliser ces sommes pour baisser la TVQ. Le syndicat Unifor a dénoncé mardi le licenciement d'environ 100 employés de bureaux non syndiqués de Brault et Martineau la semaine dernière. Unifor, qui représente leurs collègues du centre de distribution, affirme vouloir dénoncer des pratiques patronales désolantes. Ces salariés, principalement des femmes selon le syndicat, ont appris la semaine dernière que leur employeur avait décidé de sous-traiter certaines de ses activités de service à la clientèle et qu'elles perdraient, par conséquent, leur emploi. Et qu'elles perdaient, par conséquent, leur emploi. Certains de ces employés avaient cumulé des dizaines d'années de service. Face à ce qu'on appelle les « fake news » et à la crise de confiance qui mine les démocraties, Reporters sans frontières, RSF, a chargé une commission indépendante composée de prix Nobel, de journalistes et de juristes de rédiger une déclaration internationale sur l'information et la démocratie, 70 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette déclaration aura pour objet d'énoncer des principes, de définir des objectifs et de proposer des modalités de gouvernance. Elle pourra aussi servir de référence à tous ceux qui sont attachés à préserver un espace public libre et pluraliste, condition de la démocratie, explique RSF dans un communiqué. Elle est présidée par l'Iranienne Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix, et le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire. Et oui, on a appris la triste nouvelle de la mort de Rachid Taha, emporté par une crise cardiaque à l'âge de 59 ans, lui qui aurait célébré ses 60 ans très, très bientôt, je crois que c'est le 18 septembre. On va écouter une chanson en son honneur.
Kitty, bonjour, violente femme. Bonjour, Grace Kelly, bonjour, madame. Hello, Superman, bonjour, solitaire. Bonjour, tous les jours, tout à l'envers. Bonjour la graine.
accompagné de Gaëtan Roussel, c'était Rachida, la pièce Bonjour.
Et on lui dit adieu à Rachida Taha qui s'est éteint à l'âge de 59 ans. Alors, allons-y avec la une du Journal de Montréal en ce mercredi 12 septembre 2018. Trois ex-patrons d'Hydro-Québec mis sur l'éolien. On a trois photos, Thierry Vandal, Lise Croteau et Marie-Josée Nadeau. Aussi, le journal avait piégé le pédophile qui veut changer de nom en 2007. Nouvelle plainte contre le récidiviste. Un Québécois à la tête du Lightning, Julien Brisebois, nommé DG à Tampa. Nouveau capitaine, rien ne presse, écrit Marc Defoix. Proprio d'auto de luxe invité à déménager. Des dépliants anti-embourgeoisement suggèrent aux propriétaires de voitures de luxe du quartier Saint-Henri à Montréal de déménager dans des lieux plus accueillants envers les gens aisés afin d'éviter que leurs véhicules ne soient abîmés. Les dépliants ont été déposés sur des pare-brises dans les derniers jours. Ils prennent la forme d'un avis public intitulé « Risque d'incendie de voitures de luxe dans ce secteur » qui aurait été émis par l'arrondissement du Sud-Ouest. Ceci a pour objectif de vous aviser d'un phénomène inquiétant dans notre quartier, peut-on lire en première page du dépliant bilingue. Dans les derniers mois, les militants anti-gentrification prennent pour cible les voitures de nouveaux résidents plus fortunés de Saint-Henri. Plusieurs actes de vandalisme ont été recensés, allant jusqu'à l'incendie de deux voitures de luxe l'été dernier. Les dépliants ont été retrouvés près du square Sir Georges-Étienne Cartier à l'angle des rues Léa-Robac et Baudouin, près de l'endroit où quatre voitures avaient été incendiées le 14 juillet 2017. La triste réalité est que les autorités publiques ne peuvent plus assurer votre sécurité, prévient le document. Avant d'encourager les personnes qui se sentiraient concernées à déménager dans un quartier qui est plus accueillant envers les gens plus aisés. L'arrondissement du Sud-Ouest s'est dissocié du document dans une publication parue hier sur sa page Facebook et annoncé avoir remis le message menaçant aux policiers qui feront enquête. Ce genre de fausse communication sème le doute et l'incompréhension, en plus de stigmatiser un groupe de citoyens en particulier. Peut-on lire? Trois-Rivières, un rallye pour sensibiliser à l'accessibilité universelle. Pour une personne qui vit avec un handicap, une simple promenade au centre-ville de Trois-Rivières représente tout un défi. Pour sensibiliser la population à cette réalité, Bye Mauricie a mis sur pied un mini-rallye. À tour de rôle, chaque participant s'est glissé dans la peau d'une personne non-voyante, d'une personne malentendante et d'une personne à mobilité réduite. En quelques minutes, tous les participants ont pu prendre conscience des nombreux obstacles qui se dressent dans la vie de ces personnes. Il fallait monter la côte et au Café Morgane, le comptoir est trop haut pour les personnes en fauteuil roulant, racontait une participante. Disons qu'il y a des améliorations à faire. C'est dangereux et c'est stressant, ajoutait le conseiller municipal Danny Carpentier. La conseillère Maryse Bellemare a fait une vilaine chute au cours de l'expérience. Son fauteuil roulant a basculé en traversant la rue Notre-Dame. « C'est mal adapté. Je suis tombée sur le dos, mais je ne me suis pas blessée », a-t-elle commenté. Des portes automatiques qui ne fonctionnent pas, des trottoirs dangereux, des comptoirs trop hauts, des salles de bain non adaptées. La liste des problèmes est longue. Les endroits bien adaptés sont rares. Aujourd'hui, le parcours a pour but de faire voir qu'il y a beaucoup d'endroits où ce n'est pas du tout accessible, a expliqué M. Yanni Letiec. Alors, c'est plutôt Madame, directrice de l'Association des handicapés adultes de la Mauricie. On a beaucoup de rattrapage à faire, autant au point de vue des accès publics que pour les commerces, a-t-elle poursuivi. Des profs devront être formés le soir. Le manque de personnel vient compliquer la formation des enseignants sur l'éducation à la sexualité. Des milliers d'enseignants de la région métropolitaine devront être formés cet automne en vue du nouveau programme d'éducation à la sexualité qui était censé être de retour dans toutes les écoles du Québec pour la rentrée il y a deux semaines. C'est ce qu'ont expliqué les représentants des commissions scolaires de Montréal, de la Pointe-de-l'Île et de Laval réunis en conférence de presse hier. Or, pour former les profs, il faut les libérer, c'est-à-dire les remplacer par des suppléants en classe, alors qu'une pénurie de personnel sévit dans les écoles. Les professeurs seront donc essentiellement formés pendant les journées pédagogiques qui servaient déjà à autre chose, comme la préparation des cours ou les réunions. Mais à la CSDM, certains suivront aussi la formation le soir, après la fin des classes, indique Pierre Chartrand, coordonnateur des services éducatifs complémentaires. Le ministère de l'Éducation alloue d'ailleurs un montant de 1 000 par école afin de libérer les profs pour les former à l'éducation à la sexualité, une somme dérisoire selon Sylvain Mallette de la Fédération autonome de l'enseignement. Les trois commissions scolaires réunies hier assurent qu'elles seront prêtes, notamment parce qu'elles ont collaboré entre elles. Prof a formé à la CSDL 1500 sur environ 4000. Des enseignants ne savent toujours pas qui sera formé à l'éducation à la sexualité, ni même si leur direction est à la recherche de volontaires. Il conteste son renvoi du cégep devant le tribunal. Un homme qui vit avec le syndrome d'Asperger et sa mère doivent se tourner vers les tribunaux afin qu'un juge force le cégep qu'il fréquentait à le réintégrer, car ils estiment que son renvoi est injustifié. Éric Boisvert fait un retour aux études et a été accepté au cégep régional de la Naudière à Joliette dans le programme de technologie des procédés de la qualité des aliments. Or, il est devant une interdiction de la Cour d'utiliser un ordinateur ou un téléphone pouvant accéder à Internet, relié à des démêlés judiciaires où il a été accusé de harcèlement. Il ne représente aucune dangerosité, selon un expert qui l'a évalué. C'est une chicane sur Facebook qui a dégénéré et qui a mené à des accusations douteuses, justifie sa mère, France Venn. Le cégep justifie la décision du renvoi définitif d'Éric Boisvert à cause de l'incompatibilité entre ses conditions et son programme d'études, estimant qu'il aurait été difficile de l'accommoder. « J'ai vraiment eu le coup de foudre pour le programme. C'était la première fois que je me sentais bien à ma place », avoue-t-il. Éric Boisvert, c'est lui qui dit cela, lui qui a été victime d'intimidation. « J'aurais aimé avoir au moins une chance de m'expliquer, contente de me réintégrer. Maintenant qu'ils m'ont renvoyé sans réelles explications, je n'ai plus rien. » Sa mère dénonce également la grave intransigeance de l'administration du cégep. La demande d'injonction d'Éric Boisvert sera entendue aujourd'hui au Palais de justice de Joliette. Des citoyens qui souhaitaient faire annuler de nouveaux règlements de zonage adoptés par la ville de Sutton ont obtenu hier victoire en appel. Ce groupe d'une vingtaine de citoyens faisait partie de ceux qui se mobilisaient depuis l'automne 2015 sur la question. Les nouveaux règlements de zonage de Sutton étaient notamment accusés par une partie des habitants de favoriser la construction résidentielle au détriment de la protection des zones d'altitude moyenne. Le groupe de citoyens ayant décidé de saisir la justice arguait en outre que ces règlements constituaient un remplacement de ceux existants et qu'il y aurait dû y avoir préalablement une révision du plan d'urbanisme de la municipalité. Boire du champagne, c'est ce que feront peut-être les citoyens de Sutton qui ont gagné leur cause. On en parle ici, boire du champagne dans l'espace est désormais possible. Le jeune designer français Octave de Gaulle a conçu une bouteille spéciale pour permettre à ce breuvage festif de s'accommoder de l'apesanteur. Elle sera présente aujourd'hui lors d'un vol de l'Airbus 0G, zéro gravité, qui décollera de Reims et enchaînera une série de paraboles pendant lesquelles l'appareil sera en apesanteur plusieurs fois de suite. Cette innovation ne devrait pas profiter aux astronautes professionnels. L'alcool est interdit à bord de la Station spatiale internationale, mais elle pourrait bénéficier aux futurs touristes spatiaux.
Quando
Quotidien des quotidiens, vous entendiez Florent Volant, Mishta Meshkinou.
Alors, allons-y avec les nouvelles régionales, les nouvelles aussi qui concernent le handicap. Dans le quotidien, pas moins de 638 constats d'infraction ont été remis pour un emploi de mauvais aloi d'un espace de stationnement pour une personne en situation de handicap à Saguenay depuis le début de 2018. Pour contrer cette tendance, le service de police de Saguenay, SPS, et l'administration municipale tiennent leur première campagne conjointe de sensibilisation sous un slogan utilisé mondialement « Vous voulez ma place? Prenez aussi mon handicap » du 10 au 28 septembre, ça va droit au but, j'aime ça. Alors c'est donc parti, parce qu'on est le 12 aujourd'hui. La SPS, donc le service de police de Saguenay et Saguenay ont annoncé à l'occasion d'une conférence de presse hier à l'atelier de musique de Jonquière, une panoplie de mesures pour atteindre leur objectif de dissuader les conducteurs fautifs et de faire respecter la réglementation pour ainsi améliorer l'accessibilité. Cette campagne de sensibilisation qui découle du plan d'action favorisant l'intégration des personnes handicapées 2016-2018 prévoit une surveillance accrue des patrouilleurs, l'installation d'affiches, dont 6 de format géant, une brigade de bénévoles, la diffusion d'un court-métrage à la place du citoyen et une activité de conscientisation à la place du royaume aujourd'hui même. Par ailleurs, les 220 espaces de stationnement pour personnes handicapées de la municipalité sont remis aux normes, ce qui comprend leur élargissement. La question de l'aire de dégagement est cruciale. En moins d'un an, comme détenteur d'une vignette et conducteur d'un fauteuil motorisé, près d'une dizaine de fois, je suis revenu à mon véhicule avec un imbécile garé sur les lignes jaunes, obliques ou au bout de la rangée. Résultat, je ne peux pas regagner l'habitacle en déployant ma rampe latérale. Me voilà prisonnier à l'extérieur. Donc, c'est dans lequotidien.com que vous allez trouver cette nouvelle. Prends donc mon handicap. Elle est dans son fauteuil roulant et tous ses membres ont été amputés. La fureur de vivre de Sabrina Mongeon. Sabrina Mongeon va bien. Elle va extrêmement bien, radieuse, souriante, ses grands yeux pleins de rêves et d'espoir. Elle réapprend à vivre après avoir frôlé la mort. C'est Denis Graton dans Le Droit qui l'a rencontrée. Elle a reçu son congé de l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal la semaine dernière, après y avoir séjourné 4 mois. Elle est maintenant en thérapie externe pour apprendre à maîtriser ses protèges de jambes et de bras. Elle progresse de jour en jour et elle vit chez son père en banlieue de Montréal. Grâce à la générosité de milliers de gens touchés par son histoire, Sabrina a récemment pu faire l'achat d'une maison à Laval près de l'Institut de réadaptation. Un chez-soi qui sera adapté à ses besoins et à sa condition. Elle compte retourner aux études, trouver un emploi et devenir conférencière. Et elle rêve au jour où elle pourra fonder une famille avec son ami de cœur, Jonathan. C'est le grand amour, laisse tomber d'un doux sourire la jeune femme de 19 ans. Les médecins du Centre hospitalier universitaire de Montréal l'ont surnommé le miracle de Noël. Et son histoire tient effectivement du miracle, mais aussi de la force intérieure de cette jeune Gatinoise, de sa résilience, de sa détermination et surtout de sa fureur de vivre. Sabrina Mongeon a été amputée de ses bras et de ses jambes à la suite d'un accident survenu dans la nuit de Noël il y a presque 9 mois, lorsque la voiture qu'elle conduisait a heurté un poteau d'électricité. Elle en est descendue et elle a été électrocutée. La foudroyante décharge l'a projetée au sol, dans la neige, par un froid glacial, la laissant inconsciente pendant approximativement 4 heures avant qu'un passant l'aperçoive et lui porte secours. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital de Hull, puis immédiatement transférée au CHUM où elle a été soignée à l'unité des grands brûlés pendant 2 mois, subissant plus d'une dizaine d'interventions chirurgicales. Apprendre à maîtriser des prothèses est du gros travail, explique Sabrina dans une entrevue exclusive accordée au Droit. C'est un peu comme s'entraîner pour devenir un athlète olympique. Je m'attendais à ce que les prothèses soient comme de vraies jambes, que ce serait facile à porter, sans douleur. Je voyais tout en rose. Mais j'ai vite réalisé que ce n'est pas du tout le cas. C'est très difficile et ça demande beaucoup de pratique, d'exercice et de travail. Quand j'étais à l'Institut, j'étais comme dans une bulle. Tout est adapté en fonction de tes capacités. Mais lorsque tu sors, c'est là que tu fais face à toutes les barrières, au regard des gens et à tout ce que tu pouvais faire avant, que tu ne peux plus faire aujourd'hui. Tout est à réapprendre et c'est parfois frustrant. Mais je peux heureusement compter sur mes parents et ma famille. Ils sont tous avec moi depuis le début. Et honnêtement, je ne sais pas si je serais ici aujourd'hui si je ne les avais pas eus à mes côtés. Ma vie a changé dans tous les sens depuis ce drame, affirme-t-elle. Quand tu passes à un cheveu de la mort, tu réalises ce qui est important dans la vie. Je suis devenue plus authentique. Et au cours des derniers mois, je ne me suis jamais fait autant dire que je suis belle. Et parfois, je fais dur en tabarouette, lance-t-elle dans un éclat de rire. Mais il y a quelque chose qui a changé en moi, reprend Sabrina. Ça se voit de l'extérieur. et ça se ressent aussi. Avant, j'avais comme un mal-être, comme une boule en moi. Aujourd'hui, cette boule n'est plus là. Je me trouve mieux qu'avant. Il me manque 4 membres, mais je m'accepte beaucoup plus comme je suis aujourd'hui qu'avant l'accident. Si je devais donner un conseil aux gens, ce serait de leur dire qu'on a tous une force intérieure en nous, une force qu'on peut aller puiser. Même dans les moments les plus difficiles, quand tu te dis que tu n'es plus capable, il y a cette force intérieure en toi. Je sais qu'elle est là. Je suis allée la puiser la nuit de Noël. Un chercheur de l'Université du Minnesota est parvenu à créer un prototype d'œil bionique à l'aide d'une imprimante 3D. Il incorpore des photodiodes qui pourraient à terme stimuler le nerf optique d'une personne aveugle. En 2013, Michael McAlpine, alors chercheur à l'Université de Princeton aux États-Unis, avait réussi à créer une oreille bionique mêlant du tissu biologique avec des composants électroniques en utilisant l'impression 3D. Désormais professeur à l'Université du Minnesota, il vient de réaliser une autre prouesse technique, fabriquer un œil bionique, toujours par impression 3D. Il s'agit pour le moment d'un prototype qui n'est pas fonctionnel, mais a démontré une capacité à convertir la lumière en électricité assez prometteuse. À l'aide d'une imprimante 3D spécialement conçue, le professeur et son équipe sont parvenus à imprimer des photodiodes sur la paroi interne d'un dôme en verre hémisphérique dont la taille et la forme sont similaires à celles de la partie arrière d'un œil humain. Pour terminer, le Comité paralympique canadien a annoncé hier qu'il a remis 200 000 $ par des subventions du Fonds de développement du sport paralympique pour soutenir l'avancement du parasport à travers le pays. Le Fonds de développement du sport paralympique soutient des projets et des programmes qui contribuent au développement des athlètes et des entraîneurs dans un cheminement paralympique. Cela signifie soutenir les athlètes en développement et la programmation aux phases de compétition pour les débutants et au niveau provincial. L'objectif est de développer le sport paralympique partout au Canada dans le but de produire plus de meilleurs athlètes dans le futur. Un total de 22 programmes ou organisations à travers le Canada ont reçu des subventions pour l'année 2018-2019 au montant de 5 000, 10 000 ou 15 000 $. Le financement peut couvrir des domaines comme le recrutement, les entraîneurs, l'équipement, la compétition et le développement de clubs et des camps d'entraînement. Félicitations à tous les récipiendaires du Fonds de développement du sport paralympique qui font de l'excellent travail pour soutenir le développement d'un système sportif durable, a dit Karen O'Neill, CD, Comité paralympique canadien. Pour devenir un pays paralympique dominant dans le monde, nous devons soutenir nos athlètes du terrain de jeu jusqu'au podium, a-t-elle dit. Ces subventions sont une partie importante de bâtir un système fort qui, ultimement, aidera les athlètes à avoir du succès. Merci d'écouter le quotidien des quotidiens. C'est Hélène Denis qui vous accompagne en ce mercredi 12 septembre. Restez avec nous, la portion culturelle suit. Et puis, il y aura également les entrevues en compagnie de Isabella Federici, vice-présidente de programmation et production, Ami Télé chez Accessible Média, qui viendra nous parler du débat des chefs en vidéo description demain soir à compter de 20h. Et puis aussi, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec David Goudreau, l'auteur et slameur, etc., homme de mots, qui nous parlera de la fondation Lire pour réussir. À tout de suite.
Vous écoutez le quotidien des quotidiens avec Hélène Denis.
Si la vie c'est de la marde, ben j'ai fourni en laxatif. Puis si l'amour pousse dans les arbres, pourquoi qu'on est aussi craintif? Si McDo mène le monde, ben je vais prendre un trio, un condo, un char pis une blonde pour qu'on puisse se prendre en photo. Nos soirées sont un peu poches, puis nos nuits sont remplies de rêves. Y'en a des petits, y'en a des croches, puis moi je rêve à René Lévesque. Y'en a qui font des métaphores, genre la vie c'est un chemin. Moi je pousse mes gags de marde un peu trop loin. Un peu trop loin. Je suis un peu triste, mais j'ai l'impression que je suis obligé de sourire encore. Je suis un peu perdu, mais y'a Facebook pour me rappeler qu'il pleut dehors. Ça fait longtemps que je voulais te dire ça. Ça fait un bon moment, en fait ça fait 2 mois. Sur une scène, je suis tellement bien devant des millions de gens. Mais devant toi, c'est fou de voir à quel point je suis pas pertinent. Je t'ai écrit une chanson, mais j'ai pas trouvé de titre. J'ai voulu mettre ton nom, mais je sais que c'est pas fantastique. Fait que ça fait une couple de jours que j'ai de la misère à me coucher. Je suis tombé en amour, puis ça me fait un peu chier. Je suis un peu triste, mais j'ai l'impression que je suis obligé de sourire encore. Je suis un peu perdu, mais y'a Facebook pour me rappeler avec qui tu sors. Si la vie est heureuse, c'est parce que je l'aurais fait bien rire. Le présent est négligent, mais j'ai encore peur de l'avenir. C'est pas bien beau, c'est un peu sale, on est-tu bien à Montréal? Une petite guitare, 2-3 pétards, pour moi c'est ça le monde idéal. Les décisions, les auditions, les bons amis, la jalousie, la déception, l'admiration. Mais j'ai pas le temps, faut que j'étudie. Pour être quelqu'un, pour être quelque chose, faudrait que je me botte le cul. Pour finalement mourir chauve, qu'on soit tout un peu déçus. Un peu déçus. Je suis un peu triste, mais j'ai l'impression que je suis obligé de sourire encore. Je suis un peu perdu, mais y'a Facebook pour me rappeler qu'il pleut dehors.
À Canal M, on entendait Émile Bilodeau, dehors.
Dehors. Alors, si vous avez envie de sortir, Cowboy Symphonique, ça va peut-être vous intéresser. Les Cowboys Fringants ont donné hier soir à la Maison Symphonique le premier de 4 concerts dans le cadre de la série OSM Pop. C'est la première fois depuis que la série OSM Pop existe qu'un artiste se produit 4 soirs. Preuve, s'il en faut encore, que la popularité des Cowboys ne se dément pas. Ça arrive comme un point d'orgue à la tournée, dit Jean-François. Jean-François des Cowboys Fringants, c'est Jean-François Posé, guitariste et parolier. Il ne nous reste que 3 shows à faire ensuite. Ça finit super bien, le groupe qui s'est produit en Europe cet été, 5 spectacles en 4 villes, dont 2 à l'Olympia de Paris. Fera une petite pause cet automne. Ensuite, on va terminer l'écriture de nouvelles chansons pour probablement entrer en studio en janvier et offrir un nouveau disque quelque part en 2019, ajoute le guitariste. D'entrée de jeu, le chef Simon Leclerc l'a admis. Il est rare qu'on voit les mots « Cowboy Fringant » et « Orchestre symphonique de Montréal » dans la même phrase. « Mais on ne recule devant rien », a-t-il déclaré au début du premier des 4 spectacles, mettant en vedette le populaire groupe. Il paraît de toute façon qu'ils ont un public extraordinaire, a-t-il ensuite ajouté. Et il avait bien raison. Derrière nous, une dame expliquait à sa voisine qu'elle avait vu les Cowboys au moins 40 fois déjà et qu'elle avait fait la route de Québec juste pour assister à ce spectacle. Le chanteur Carl Tremblay a paru un peu mal à l'aise en début de spectacle alors qu'il était seul avec l'orchestre pendant les 3 premières chansons. L'arrivée de Marie-Annick Lépine sur 8 secondes et surtout l'implication du public ont ensuite semblé le porter. Car s'il y a eu quelque chose de beau dans cette soirée, c'est sûrement les cœurs spontanés des spectateurs. Sur la si belle toune d'automne, il fallait entendre toutes ces voix unies accompagnées par l'OSM. « Ça sonne bien, hein? » a d'ailleurs lancé Carl Tremblay à la fin de la pièce sur « En berne ». Il fallait voir tous ces gens taper des mains, se lever spontanément et sauter sur place. On est prêt à gager que la Maison symphonique a rarement connu une telle frénésie. Huit artistes musicaux québécois ont vu leur talent être reconnu lors de la 13e remise de prix annuel de la Fondation de la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec, la SPAC, à Montréal. Plusieurs jeunes chanteurs émergents, dont Hubert Lenoir, Loud, Émile Bilodeau qu'on a entendu, ont été primés. Les carrières de Jean Lapointe, Marie-Denise Pelletier, Marie-Michel Desrosiers, dis-je bien, et Patrice Michaud ont aussi été soulignées. Moitié du duo Alpha Rococo avec son amoureuse Justine Laberge, David Bussière a été récompensé par le prix Diane Juster, qui représente une implication exceptionnelle auprès de ses pairs auteurs-compositeurs-interprètes. Le pianiste Marc-André Hamelin a quant à lui mis la main sur le prix Robert Charlebois en raison de son important rayonnement international. Le drame de 12 enfants et de leur entraîneur de football extrait après deux semaines sous terre d'une grotte inondée au cours de l'été en Thaïlande va faire l'objet d'un film, on s'en doutait bien, dont le tournage est d'or et déjà prévu en novembre. Le projet est déjà bouclé et les financements trouvés, a déclaré hier Katrina Gross, productrice associée du film, en précisant que le scénario était encore en cours d'écriture. Le réalisateur thaïlandais d'origine irlandaise, Tom Waller, vient de présenter son projet de films au Festival de Toronto, a-t-elle précisé. Il est l'auteur notamment de The Last Executioner sur le dernier bourreau de Thaïlande. Une page Facebook vient d'être créée pour ce nouveau film qui doit s'appeler The Cave, la grotte. La chanteuse française Véronique Sanson est contrainte d'annuler la quasi-totalité de ses concerts prévus au mois de novembre pour soigner une tumeur qui a été détectée très récemment, a annoncé hier son producteur Gilbert Coulier. La chanteuse de 69 ans, dont un album de duo Volatile, doit sortir le 23 novembre, est dans l'obligation de subir un traitement qui nécessite plusieurs semaines d'immobilisation, ajoute le communiqué sans préciser la nature de la tumeur. Êtes-vous des lecteurs de L'Amie prodigieuse? La saga de L'Amie prodigieuse de l'Italienne Elena Ferrante n'a pas fini d'inspirer les réalisateurs. Cette fois, c'est l'actrice américaine Maggie Gyllenhaal qui souhaite mettre en image L'Enfant perdu, dernier tome de la tétralogie napolitaine qui compte plus de 2000 pages et qui s'est vendue à plus de 10 millions d'exemplaires. Ce serait la première incursion de l'actrice derrière la caméra. À 10 jours du déclenchement possible d'une grève illimitée, le syndicat des employés de TVA demande aux chefs des quatre principaux partis de refuser de donner une entrevue au réseau si une grève ou un lock-out était effectivement déclenché. Une grève générale illimitée des 830 employés de TVA, membres du syndicat canadien de la fonction publique, affiliés à la FTQ, pourrait être déclenchée le 22 septembre. L'équipe de District 31 doit être de bonne humeur parce que l'émission a dominé la compétition lundi. La quotidienne de Luc Dionne est revenue en ondes devant 1 256 000 fidèles, permettant à Radio-Canada de récolter les plus gros chiffres du jour, selon les données préliminaires de Numéris. L'automne dernier, le drame policier avait entamé sa deuxième saison devant 1 399 000 téléspectateurs qui voulaient tous savoir si Nadine, Magali Lépine-Blondeau, était morte ou non.
Cherche à comprendre, cherche pas à chercher. Tu veux te défendre, faudrait d'abord être en danger. J'ai une version en couleur, une version noire et blanc, qui donne des chaleurs à ton cœur d'adolescent. Gemini s'est mis à poudrer son nez. J'ai écrit Abel plus dans les pieds. 2000 ans après, c'est encore de ta faute. Ça peut pas t'empêcher de tout essayer. Ah, ça peut pas t'empêcher.
c'est se trouver la phrase de tapis qui de se fait pour t'amener à voir le monde en couleur sans reflet noir et blanc. Ça donne des chaleurs à mon cœur d'adolescent. Mais vas-y, tu sais capable. Tant de carrière pour 3 millions d'années. Une photo de ta grand-mère, le crucifix, le
JC par Hubert Lenoir.
Jeudi, c'est le grand débat des chefs, animé par Patrice Roy.
Des réponses à vos questions pour vous aider à faire un choix éclairé.
En direct le 13 septembre, 20h, sur la page Facebook d'Ami Télé.
Alors, voilà, c'est la promotion qui tourne chez Ami Télé pour justement promouvoir le débat des chefs en vidéo description. On en parle avec la vice-présidente programmation et production Ami Télé chez Accessible Média, Mme Isabella Federici. Bonjour, Mme Federici.
Bonjour.
J'espère que je prononce bien votre nom de famille.
Oui, c'est parfait.
Tant mieux. Alors, le débat sera diffusé en direct sur la page Facebook d'Ami Télé. Pour quelle raison? Pourquoi pas à la télévision?
En fait, on aurait souhaité, on a vraiment fait tout, mis tous les efforts en place pour le faire. Malheureusement, c'est un problème technique de diffusion, réception du signal entre Radio-Canada et nous à Toronto, mais parce que notre mise en onde est à Toronto, même si nos opérations sont à Montréal. Donc, je ne vais pas entrer dans trop, trop de détails techniques, mais c'est uniquement pour ça. Mais sachez que tout a été fait pour le faire. Mais l'idée, c'est vraiment c'est un projet, en fait, d'Élections Québec qui a lancé l'idée aux médias au printemps d'essayer de faire un effort démocratique afin d'inciter les gens, à informer les gens le plus possible pour amener plus de gens à voter le 1er octobre prochain. Mm-hmm. Et donc, Radio-Canada mène le projet. C'est eux qui sont les producteurs du débat. Et en collaboration avec tous les médias, autant télévision, radio, imprimé et web, c'est vraiment un effort de groupe qui a été très bien reçu chez tous les médias. Et chacun y va de sa particularité. Chaque média va présenter quelque chose en plus du débat. Et chez Ami Télé, comme nous, on est un média d'accessibilité. On va présenter le débat avec vidéo description en direct, même s'il va y avoir quand même très peu de description à faire. Je pense que c'est important de le faire. Et naturellement, avec le sous-titrage. On a aussi travaillé avec l'Association de langue des signes québécoise pour le présenter avec interprétation. Ça a été aussi un gros exercice.
Ah oui?
Oui, ça a été...
Dans quel sens?
Par contre, parce que c'est assez particulier, présenter un débat avec interprétation. Dans un monde parfait, on aurait eu un interprète par chef plus un interprète pour le modérateur. Ça alourdit beaucoup techniquement la production comme telle. Donc, mais l'effort, l'exercice a été fait, qui n'a pas été concluant pour cette année, mais qui va nous aider beaucoup pour un prochain débat, possiblement pour le débat fédéral des élections de l'an prochain.
Et si on revient à la présentation en vidéo description, est-ce que vous allez être à l'aise de parler un peu par-dessus les candidats pour décrire le langage non-verbal?
Oui, en fait, les gens qui sont engagés pour faire la description en direct sont des experts, des gens qui sont habitués pour faire la description en direct, qui ont déjà fait les présentations des compétitions de Jeux paralympiques, par exemple. Donc ça, c'est pas une inquiétude du tout.
Et comment on peut suivre le débat avec la vidéo description? Est-ce qu'il suffit d'ouvrir notre page Facebook ou il faut allumer notre télévision?
Non, uniquement en se connectant sur la page Facebook d'Ami Télé. Les gens vont voir le signal du débat à partir de 20 heures et la description est automatique. Il n'y a rien à mettre en marche. Mm-hmm. C'est comme si vous regardiez Ami Télé. C'est le même système.
Est-ce que c'est le premier débat que vous présentez en vidéo description?
Oui, c'est le premier débat, en effet. Ben, en fait, aux dernières élections provinciales en 2014, on n'était pas encore en onde.
OK, une bonne raison.
on est entré en onde en décembre de cette année-là, mais oui, c'est la première fois. On a déjà fait des événements en direct. Je pense aux cérémonies d'ouverture des Jeux de Rio, les Jeux paralympiques, et ce n'est pas non plus la dernière fois qu'on va le faire.
Non, est-ce que vous pensez, vous avez d'autres projets? Est-ce que vous voulez être de plus en plus présent sur en faire des Facebook Live? Je ne sais pas c'est quoi la version française d'un Facebook Live, un Facebook en direct.
En direct, c'est ce que j'allais dire.
Oui.
C'est une première expérience. En fait, oui, idéalement, on est un média télévisé, donc on l'aurait fait sur la télévision, mais c'est bon, comme je disais tout à l'heure, c'est un pépin technique, mais Facebook Live, oui, pourquoi pas, les médias sociaux deviennent de plus en plus des plateformes de diffusion, hein, autant que la télévision, donc il n'y a rien d'impossible. Si autre chose se présente, on pourra sûrement regarder pour le faire aussi.
Alors, on va espérer que le pépin technique se règle pour les prochaines fois, parce qu'il y aura aussi le débat du côté du Canada, aux élections fédérales.
Oui, ça va probablement être différent en ce moment-là. Ça devrait être plus facile. Comme je vous dis, je ne vais pas entrer dans la technicalité du projet, mais oui, que sachez tous que l'effort est toujours là.
C'est pas parce que vous n'avez pas essayé que ça n'a pas lieu.
On n'a pas essayé, vraiment.
Non, non. Alors, on vous fait confiance. Un grand merci. On va être à l'écoute demain pour... moi, je suis curieuse de voir comment ça va se faire en vidéo description. C'est donc demain à compter de 20 heures pour écouter le débat des chefs.
22h15.
Pardon?
Ça va dépasser un peu. Ça va se terminer à 22h15.
OK. Donc, un bon 2h15 où on va pouvoir entendre les chefs et peut-être avoir une meilleure idée de où on va mettre notre croix le 1er octobre.
Oui, c'est très important de participer à l'élection. C'est profiter de notre droit de vote.
Tout à fait. Isabelle A. Federici, vice-présidente de programmation et production Ami Télé chez Accessible Média. Merci, puis bonne chance pour demain.
Merci beaucoup.
Au revoir, à la prochaine.
Au revoir.
Alors, une pause et puis au retour, une chanson qui est en lien avec l'entrevue que je ferai avec David de Goudreau. Maurice a décidé de nous offrir « Il y a les mots » ou « Il y a des mots » ?«
Il y a les mots ».«
Il y a les mots », c'est tellement de belles chansons. Francine Raymond, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendue, cette chanson, et qu'on n'a pas entendu de nouvelles à propos de Francine Raymond. On l'écoute après la pause.
Amuser ceux qui abusent, les mots qui blessent comme autant de morsures, les mots qu'on pleure et crache en venin dans le chagrin, et ceux qu'on échange en poignée de main.
Francine Raymond, il y a les mots.
Il y a les mots, il y a les livres et il y a la nouvelle fondation Lire pour réussir, dont la mission sera de développer la culture de la lecture au Québec, qui a été inaugurée mardi, donc hier, à Montréal. Et ce nouvel organisme compte sur l'appui de 38 ambassadeurs, ambassadrices, parmi lesquels figurent l'écrivain, poète, slameur, chroniqueur, homme de mots, quoi, David Goudreau. Bonjour, David.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Ça me fait un grand plaisir.
Pourquoi vous avez décidé, vous avez accepté d'être l'un des ambassadeurs de la Fondation Lire pour réussir?
Ben, en fait, c'est extrêmement cohérent avec ce que je fais moi-même.
Oui.
De mon côté, je pense que vous l'avez dit, je suis un homme de mots surtout. Parfois, je donne l'impression de faire plein de choses, mais en fait, c'est toujours l'écriture qui est là, même quand j'écris des chansons pour d'autres, quand je publie des romans, de la poésie, peu importe. C'est toujours l'amour des mots. Et pour moi, ça a été extrêmement important dans mon parcours. Si ça ne m'a pas sauvé la vie, en tout cas, ça lui a donné beaucoup de sens. Et j'ai l'impression que c'est une occasion de redonner. Donc déjà, j'ai fait diverses activités pour ramasser des livres, pour en donner à des centres de détention, entre autres, ou à des maisons de jeunes.
Mm-hmm.
Et quand ils m'ont approché, ben pour moi, c'était juste une façon peut-être d'accélérer ce processus de rediffusion de la littérature.
Alors, votre rôle plus concrètement d'ambassadeur, vous allez en parler sur plusieurs tribunes. Vous allez aussi faire Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Vous allez faire de la distribution de livres, rencontrer des...
Oui, puis je crois qu'il va y avoir des activités aussi ponctuelles à certains moments. Déjà, on a participé à une impro littéraire qui était hyper intéressant à la maison de l'UNEC, à la maison des écrivains, où on lisait des extraits de nos livres, puis il y avait des improvisateurs professionnels qui partaient de nos histoires et qui reconstruisaient finalement un peu le récit en le jouant sur scène. Puis je sais qu'il y a déjà eu répétition de cette belle aventure, donc probablement que j'aurai la chance d'y retourner.
Mm-hmm. Et est-ce que vous êtes au courant que ça va pas très bien côté aptitude à lire, à comprendre, à utiliser l'information écrite dans la vie de tous les jours? Je lisais qu'à l'âge adulte, plus de la moitié de la population québécoise de 16 à 64 ans n'atteint pas le seuil acceptable de niveau 3 en littératie. Ça signifie que plus de la moitié des Québécois, des Québécoises éprouveraient des difficultés à déchiffrer un article de fond dans un journal, les instructions de manuels requis pour leur travail ou encore à comprendre les subtilités d'un essai ou d'un roman.
C'est extrêmement triste. C'est vraiment préoccupant, évidemment. Par contre, j'ai l'impression que de plus en plus, cette information-là circule, que ça dérange et qu'il y a des gens qui se mobilisent pour aller un peu renverser la vapeur. D'un autre côté, je crois pas que les statistiques étaient vraiment meilleures il y a 50 ou 100 ans.
Mm-hmm.
Par contre, c'est clair qu'il faut absolument s'en occuper parce que une population qui peut pas lire, qui ne peut pas comprendre, donc jusqu'à un certain point, les enjeux qui la concernent directement, ben c'est une population qui peut pas voter en conscience de cause, c'est une population qui peut pas prendre des décisions pour son propre bien jusqu'à un certain point. Donc, c'est clair que la lecture, au-delà de de la littérature. Hein. Là, on est vraiment au niveau seulement de comprendre les nouvelles, comprendre l'information qui circule.
Oui, la base.
Exactement. Mm. Puis avec les réseaux sociaux, c'est peut-être ça aussi le danger. Puis ce qu'on voit avec les algorithmes, c'est que l'information est déjà mâchée, synthétisée, souvent détournée. Et en quelques phrases choc, on va donner l'impression de donner une information aux gens. Alors que, évidemment, c'est pas tant une information qu'une désinformation, parfois même une certaine propagande qui va être diffusée à ce moment-là.
D'où l'importance Pardon, allez-y.
Oui, effectivement. Bien, d'où l'importance d'apprendre aux gens à lire, à déchiffrer ces codes-là, ces informations-là, puis y aller par le plaisir. Je crois que c'est une bonne stratégie hein, en pédagogie quand on fait quelque chose qui nous intéresse, qui nous plaît. Ben souvent, on l'intègre mieux ou en tout cas, on va un peu plus loin. Donc, moi, je crois que quand on va dans les écoles primaires donner des livres, la littérature jeunesse québécoise est extrêmement florissante, intéressante. Donc, si on leur donne des livres à cet âge-là, ben probablement que c'est une génération, la prochaine génération des lecteurs qu'on est en train de préparer.
Mm-hmm. Faut commencer ça jeune.
Oui. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de deck possible. Hein. Avec les bébés, on peut commencer à feuilleter des livres. Déjà, c'est hyper important.
Oui, idéalement.
Il y a des initiatives dans les bibliothèques qui ont été faites dans ce sens-là, d'ailleurs. Une naissance, un livre. Donc, toutes ces initiatives-là, je crois, sont encouragées ou soutenues par la Fondation Lire pour réussir, qui met l'épaule à la roue, finalement, et qui a eu la bonne idée, justement, de mobiliser près de 40 ambassadeurs qui vont porter ce message-là de l'importance de la lecture. Puis c'est pas seulement de dire la lecture, c'est important, puis surtout pas, en tout cas pour moi, d'y aller avec le ton moraliste, qu'on ne lise pas. Au contraire, c'est de rendre la chose intéressante, de la rendre sexy, de la rendre attrayante en proposant de diverses façons. Donc oui, en mettant les livres à la disponibilité des gens. Donc les livres qui traînent dans les bibliothèques qu'on ne relit pas, il faut les remettre en circulation, il faut les offrir aux organismes communautaires.
Parce qu'un livre, c'est vivant.
Exactement, faut que ça circule, faut que les auteurs se promènent dans les écoles, dans les prisons, qu'ils aient rencontré les gens, qu'ils partagent leur passion. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas qu'elles aiment la littérature parce qu'on ne les a jamais mis en contact avec ça. Il n'y a jamais quelqu'un de passionné par la chose qui leur a expliqué ce que ça pouvait leur apporter.
C'est vrai.
Qui leur a mis un livre dans les mains.
Qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui vous dit justement qu'il n'a pas le temps de lire en terminant David Goudreau?
Il faut le voler. Il faut voler ce temps-là. Moi non plus, j'ai pas le temps de lire et pourtant, je me vole un 15 minutes par-ci, par-là, je lis au lit, je l'en laisse traîner à la salle de bain. Il faut le voler parce que c'est super important. C'est une question de santé psychique, de santé mentale, d'hygiène personnelle, parfois, d'être capable d'avoir des références, non pas seulement des références littéraires, mais des références culturelles qui habitent la littérature, qui traversent la littérature d'une façon ou d'une autre. Donc, plus on s'expose au livre, plus on s'expose à quelque chose qui nous construit nous-mêmes.
Et moi, je vais vous voler votre citation. Lire, c'est être et être libre.
Ah ben, tant mieux si ça vous parle.
Oui, ça me parle. Et on ira faire un tour sur le site Internet de la Fondation Lire pour réussir pour avoir toute l'information, toutes les activités auxquelles on peut participer. lire-réussir.org. Et on va se quitter avec La faute au silence. C'est une chanson de David Goudreau. Un grand merci d'avoir été avec nous.
Ça fait plaisir. Bonne journée.
Merci.
Au revoir.
Vous aussi.
C'est la faute au silence, si les salauds salivent, si les missiles s'élancent, si nos sœurs sont salives. C'est la faute au silence. C'est la faute au silence. C'est la faute au silence, si les salauds salivent, si les missiles s'élancent, si nos sœurs sont salives. C'est la faute au silence. Ça commence des cours d'école, entre les cours ça déconne. Se lance de drôles d'école, d'école tu fites pas dans le décor. On va s'occuper de ton corps, la peur longe les corridors. Règlement de compte des corridors, on sacrifie le plus faible pour faire partie du temps. Sur une rumeur ou un fait, t'es plus que témoin. T'as rien à en dire, même si t'en as les moyens. D'ailleurs t'as rien dit, bien content d'être en moyenne. Quand on blesse le plus petit, c'est la faute au silence. Faut se lever de bonheur, pouvoir fermer un bon cœur, mais dans les yeux des...
bonheur. Dès qu'il arrête un podcast, des manifestants, un flot qui se promène podcast, ceux qui le détestent. On a notre quota de petits méfaits, on en oublie les vrais mafieux. Ma foi, on est combien de méfiants? Vois les banquiers qui tirent les fils, qui tirent les ficelles de nos enfiles pendant qu'à la rue s'étire la file. Je chale pour rien. Mais rien dire, c'est trop facile. C'est la faute au silence, c'est les salauds salis. Si les missiles s'élancent, si nos sorts sont salis. C'est la faute au silence. C'est la faute au silence. C'est la faute au silence, si les salauds salis. Si les missiles s'élancent, si nos sorts sont salis. C'est la faute au silence. Le silence forme une croûte sous laquelle les salauds se tairent. C'est pas parce que personne n'écoute qu'on est obligé de se taire. C'est pas parce qu'on se fait fourrer qu'on est obligé de jouir. Ma mienne sert à forer, c'est de la matière que j'en tire. Matière à réfléchir pour ceux qui fléchissent moins. Ceux qui arrivent de justesse jusqu'à la fin du mois. Si on rush, c'est parce qu'on a la fronde. Garde les mains dans tes poches, on vient essuyer la fronde. On prend Dieu pour une science, on stocke la coke en silo. C'est la faute au silence, s'il y a de la rage dans stylo. C'est la faute au silence, si les salauds salissent. Si les missiles s'élancent, si nos sœurs sont salies. C'est la faute au silence. C'est la faute au silence. C'est la faute au silence, si les salauds salissent. Si les missiles s'élancent, si nos sœurs sont salies. C'est la faute au silence.
De Goudreau, La faute au silence.
Alors, c'est la chanson-titre d'un album de David Goudreau. Allons-y avec une lecture d'un texte paru dans lacroix.com, 10 règles de vie pour devenir plus humain, le message d'anniversaire de Jean Vanier. À l'occasion de ses 90 ans, Jean Vanier propose dans une vidéo 10 règles de vie pour devenir plus humain. Le fondateur des communautés de l'Arche, qui réitère son appel à accepter sa fragilité et à vivre de vraies rencontres, donc s'exprime assis sur un fauteuil blanc. Un homme au visage marqué par l'âge s'exprime posément, la voix douce et l'œil rieur. C'est en anglais, sa langue maternelle, que ce Canadien d'origine a choisi de délivrer son message d'anniversaire. Jean Vanier, fondateur des communautés de l'Arche, a eu 90 ans lundi, 10 septembre. Des interventions publiques, cette grande figure spirituelle en a donné des centaines au cours de sa vie. Il est également l'auteur d'une trentaine de livres, mais depuis une crise cardiaque en octobre 2017, Jean Vanier se repose chez lui. À Trois-Libreuil, la bourgade Picarde où est apparue la première communauté de l'Arche en 1964. Grâce aux moyens de la vidéo et de l'Internet, cette assignation à résidence ne l'empêche pas de prodiguer une fois de plus son message spirituel. Celui-ci s'énonce comme toujours dans un langage des plus accessibles, presque enfantin. Ces 10 règles de vie poursuivent d'ailleurs un objectif simple, devenir plus humain. Parle de tes émotions et de tes difficultés. N'aie pas peur de ne pas avoir de succès. Sois conscient de ta propre histoire. Écoute ton désir le plus profond et suis-le. Fort d'un compagnonnage de 50 ans avec les personnes handicapées, Jean Vanier prononce ici une ode à la liberté et appelle ses auditeurs à accepter leur fragilité, à rebours des impératifs contemporains de succès et de performance.
Thank you.
S'évader à bon prix. Vol, forfait tout inclus, escapade au Québec, voici quelques aubaines repérées pour vous. Prix en vigueur hier, peuvent changer sans préavis. C'est un article d'Evelyne Audet dans la presse. Section pause, Rio de Janeiro au Brésil. Vol aller-retour, Montréal-Rio de Janeiro, avec une correspondance à Panama. 737 $, taxes et frais inclus, bagages enregistrés inclus, du 7 au 22 octobre avec Copa Airlines. Paris, France, vol aller-retour Montréal-Paris avec une correspondance à Reykjavik. 430 $, taxes incluses, frais de bagages en su, du 25 octobre au 7 novembre avec Wow Air. Vol Nassau-Bahamas, aller-retour Montréal-Nassau avec une correspondance à Toronto. 515 $, taxes incluses, frais de bagages en su, du 25 octobre au 7 novembre sur les ailes de WestJet. Shanghai, Chine, vol aller-retour, Montréal-Shanghai, vol direct, 688 taxes et frais inclus, un bagage enregistré inclus du 5 au 26 novembre avec Air Canada. Riviera Maya, un tout inclus, Mexique, Grand Sunset Princess All Suites and Spa Resort, 5 étoiles. Véritable paradis familial de 672 chambres situé directement sur une plage de sable blanc, 12 piscines et mini-clubs supervisés pour enfants, 10 bars, 10 restaurants, activités extérieures, sports nautiques et centres de conditionnement physique, 935 $ par personne en occupation double, prix courant 1685 vols, chambres, d'hôtel, taxes et frais inclus du 21 au 28 septembre avec Sunwing. La Romana, République dominicaine, c'est un 4 étoiles, hôtel de 4 chambres situé directement sur la plage, à 35 minutes de l'aéroport, idéal pour les familles avec club pour enfants et adolescents, 2 piscines, 6 bars, 6 restaurants, sports nautiques non motorisés inclus, activités extérieures gratuites, 879 $ par personne, en occupation double, prix courant 1389. Vol, chambre d'hôtel, taxes et frais inclus du 23 au 30 septembre avec Vacances Air Canada. Et pour terminer, plus près d'ici, Outaouais, à Gatineau, forfait signature nordique, nuit d'hébergement en chambre classique, souper, table d'hôte, 4 services, petit déjeuner complet, expérience thermale au Nordique Spa Nature, stationnement gratuit à partir de 426 $, surclassement possible en chambre tendance exécutive ou urbaine. Cette semaine marque le congrès biannuel du Conseil québécois des entreprises adaptées du 12 au 14 septembre. Près d'une centaine de participants feront le déplacement vers Alma pour assister aux activités proposées aux responsables des ressources humaines, direction générale et administrateurs des entreprises adaptées. Nous avons plusieurs activités de prévues, tournoi de golf, visite de Rio Tinto Alcan, visite d'une entreprise adaptée, mais aussi une conférence de Chantal Lacroix, ainsi que des ateliers de travail qui ont été développés avec des professionnels précisément pour répondre aux besoins réels de nos membres, et ce, en collaboration avec ceux-ci. Ce soir, le 12 septembre, nous présentons aussi la remise de la première édition des Prix Inspiration, dont l'objectif est de mettre en valeur les bons coups en santé et sécurité du travail et en formation des membres du Conseil québécois des entreprises adaptées. Finalement, on vous invite à joindre la page Facebook à Commercial Entreprise adaptée au pluriel, car nous publions des contenus exclusifs concernant notre congrès directement sur celle-ci cette semaine. Une nouvelle publiée sur le site de Radio-Canada avec la pénurie de main-d'œuvre qui sévit au Québec, le système de santé publique et les résidences privées pour personnes âgées s'arrachent les préposés aux bénéficiaires. Alors que les CHSLD doivent en recruter 25 dans la région, le domaine des aînés d'Alma, lui, est à la recherche de 10 nouveaux employés. La résidence tient d'ailleurs 3 journées d'embauche pour les attirer. L'entreprise mise sur le bonheur de ses employés pour les recruter. Le travail, les préposés ont le temps de bien le faire, de donner de bons soins. Ce qui est plaisant en travaillant ici, c'est qu'on offre des horaires qui sont stables, des heures qui sont garanties. C'est bien pour la vie de famille, si on veut. C'est ce qu'on attend souvent ces temps-ci, explique Patrice Gagnon, directeur des services au domaine des aînés d'Alma. Nathalie Martel travaille depuis 6 ans comme préposée aux bénéficiaires au domaine des aînés. Son salaire est moins élevé que celui qu'elle pourrait avoir dans le système public, mais la qualité de vie est au rendez-vous. On n'est pas des numéros. Moi, je suis bien heureuse là-dedans, je me sens écoutée. C'est bien, je n'ai rien à dire de négatif, raconte-t-elle. Une application mobile facilite aussi la vie des employés tout en assurant le bien-être des résidents. Tous les soins qu'ils ont à faire durant la journée, autant l'entretien ménager que les soins, c'est indiqué avec l'heure précise. Quand le soin a été exécuté, ils le cochent, c'est fait. Quand le soin n'a pas été fait, je vais voir ma préposée, voir si elle a besoin d'aide, la directrice des soins de l'établissement. Alors, c'est déjà parti, le Big Band Côte Basque dans Just Gigolo. Merci d'avoir été présent. Merci à mes invités, à aussi Anne-Laure Janson à la recherche et Maurice Bolduc aux choix musicaux, ainsi qu'à la mise en onde. Ici Hélène Denis qui vous dit un grand merci à vous d'avoir été là et je vous retrouve demain, jeudi 13 septembre. À demain!